Brique culture.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, du 26 au 30 mars dernier, dans la petite ville de Schiltigheim, à côté de Strasbourg, en Alsace, s'est déroulée la 10e édition de Mitteleuropa, un événement culturel fait de rencontres avec des écrivains, des artistes, des penseurs issus de divers horizons, des Vosges à l'Oural. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce rendez-vous de la vie culturelle alsacienne, organisé dans la bonne humeur et l'amitié par une équipe à l'image de cette multiculturalité recherchée. Armand Peter, l'Alsacien, Vladimir Claude Fischera, ancien professeur d'histoire à l'université de Strasbourg, le franco-tchèque, et Emma Gunz, l'Allemande. Tous les trois portent sur leurs épaules ce projet qui, cette année, s'interrogeait sur l'Europe difficile utopie, point d'interrogation. Outre un hommage au chanteur dissident russe Vladimir Vysotsky, les lectures d'une poétesse russe à l'humour et l'espièglerie communicatif, une large place était accordée aux Tchèques, comme dans la majeure partie des éditions de Mitteleuropa. Cette année, un hommage à Václav Havel, la présence de la chanteuse folk Dagmar Andertova-Voňková et du poète Petr Hruška, mais aussi la venue d'Antonín Lim, figure du Printemps de Prague, et d'Elena Wagnerova, écrivain, spécialiste notamment de Kafka et de Milena, donne la mesure d'un rendez-vous encore bien rempli. Et tout de suite, avant de retrouver quelques-uns de ses invités, on écoute Armand Peter, organisateur de Mitteleuropa, nous rappeler les débuts, il y a de cela 20 ans.
Je dirais que c'est tout d'abord un travail fait par des militants alsaciens, des gens qui en Alsace mènent un combat pour promouvoir la culture en Alsace, c'est-à-dire la culture bilingue, c'est-à-dire la création régionale, la création littéraire, dans les trois langues qui sont les nôtres, c'est-à-dire le français, l'allemand, mais aussi le dialecte alsacien. Et c'est à partir de cette idée de sauvegarder, de promouvoir cette culture en Alsace, qui est une culture bilingue, nous avons découvert que de l'autre côté du Rhin, il y avait une autre culture, la culture allemande, qu'on connaissait très mal, et on a commencé en 1986 à s'intéresser à nos voisins allemands, et à partir de là, donc, on ne s'est plus arrêté, puisque on a découvert qu'il y avait tout un paysage culturel qui allait jusqu'à la Russie, qui était très proche de nous, puisqu'on nous partageons beaucoup de points communs dans la culture, donc dans cette Mitteleuropa.
Alors justement, vous dites que c'est allé bien au-delà finalement des frontières simples de l'Allemagne et de l'Alsace en tout cas. Il y a énormément d'intervenants tchèques, de lectures, de poètes, d'écrivains, de conférenciers également, d'artistes qui sont venus. Pourquoi la République tchèque en particulier, les artistes tchèques en particulier, et qu'est-ce que ça a apporté à cet événement ?
Je dirais qu'en 1987, nous avons eu le bonheur de rencontrer Bohumil Hrabal à Strasbourg. Et c'est grâce à Bohumil Hrabal qu'on s'est ouvert davantage à la Tchécoslovaquie. Et comme en plus nous travaillons avec quelqu'un à Strasbourg, donc Vladimir Fischera, qui est un merveilleux traducteur et merveilleux connaisseur de tous les pays slaves et langues slaves, il était donc évident qu'on s'intéresse en priorité à la République tchèque et à la Slovaquie. Et effectivement, donc, le plus grand nombre de nos invités, aussi bien des poètes, des écrivains que des chanteurs, sont venus de République tchèque.
Et qu'est-ce que pour vous, la Mitteleuropa, quelle serait votre définition intime de la Mitteleuropa ? Comment est-ce que vous, Armand Peter, vous la sentez, la ressentez ?
Tout d'abord, pour nous Français, en Alsace, il va de soi que Mitteleuropa est un nom allemand, un nom étranger. On aurait pu appeler ces rencontres littéraires Europe centrale. Mais dans Europe centrale, il n'y a pas cette saveur, il n'y a pas cette beauté qui se trouve dans le terme Mitteleuropa. Alors, nous savons aussi que le concept de Mitteleuropa est un concept qui est connoté, qui pourrait rappeler un ancien pan-germanisme allemand. Or, ce n'est pas du tout ça que nous voulons, bien sûr. Pour nous, la Mitteleuropa, c'est davantage une Kulturlandschaft, un paysage littéraire, une géopolitique littéraire. Et c'est un paysage culturel où nous invitons les gens à ce que nous appelons le Stammtisch. Le Stammtisch, c'est la table des amis qui se rencontrent au bistrot, au restaurant, pour boire et manger et discuter. Nous invitons donc les auteurs, les faiseurs d'écriture, les acteurs d'histoire, on les invite à la Stammtisch des mots pour bavarder, pour discuter, pour un dialogue fraternel et déjà critique. Pour revenir à la Mitteleuropa, nous avons inventé une nouvelle définition de la Mitteleuropa, qui est une définition tout à fait étonnante et culinaire. Pour nous, la Mitteleuropa, c'est là où on plante et où on consomme le réfort. C'est-à-dire, c'est une racine qu'on consomme jusqu'en Alsace. C'est que la frontière est sur les Vosges. De l'autre côté des Vosges, en France, à l'intérieur, en France, on consomme de la moutarde, on mange la moutarde. Mais le réfort se mange jusqu'en Alsace. Et tous ces pays qui mangent le réfort font partie de la Mitteleuropa, y compris dans les communautés juives de Paris ou de New York, où on mange le réfort, se trouve la Mitteleuropa.
D'ailleurs, vous avez écrit un joli texte qui s'appelle Mitteleuropa, ou l'adieu au réfort, c'est bien ça?
Oui, l'adieu au réfort, parce que donc la définition pour nous, la seule qui soit bonne, la Mitteleuropa, c'est le réfort. Mais comme nous, c'est un 10e anniversaire, nous faisons le bilan de ces 10 grandes manifestations sur plus de 20 ans de travail ici, donc à Schiltigheim et de part et d'autre du Rhin. Versons une larme émue.
Et d'ailleurs, ça peut faire pleurer parfois le réfort quand c'est fort.
Ça fait souvent pleurer, mais ce sont des larmes de joie.
Et donc des larmes de joie, vous disiez que donc c'est la 10e édition, que c'est le moment de faire le bilan. On peut quand même espérer qu'il y aura une suite à Mitteleuropa?
Oui, bien sûr, il y aura une suite, peut-être pas sous la forme de biennales qui sont des opérations très lourdes. Ça reste à trouver, à inventer. De toute façon, ce seront des rencontres toujours aussi pétillantes, aussi conviviales que les précédentes, mais beaucoup plus légères.
Dagmar Andrtová Voňková est la première dame de la chanson folk tchèque. En tout cas, à la toute fin des années 60, où elle a commencé à composer et jouer, elle était la seule représentante féminine de ce genre longtemps oublié. Elle s'est notamment faite connaître dans les cercles restreints des musiciens interdits sous le régime communiste, après avoir rejoint l'association non officielle de chanteurs folk, Chafran, le Safran, créée en 1972 et regroupant des auteurs-compositeurs comme Jaroslav Hudka, Vlastimil Třešňák ou encore Vladimír Merta. Le groupe se disloque après l'émigration forcée de ces trois artistes et de quelques autres signataires de la charte 77. Dagmar, elle, parvient à participer à quelques concours de chant, mais doit faire de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Et la situation politique de l'époque fait qu'elle doit attendre 1986 pour enregistrer son tout premier album. C'est Jaroslav Hudka qui, en 1968, avait découvert des chansons moraves traditionnelles compilées par un prêtre catholique du 19e siècle, František Sušil, et qui les avait mis au goût du jour, suscitant l'enthousiasme des jeunes tchèques. Dagmar Andrtová, elle, cherchait alors un moyen d'expression artistique. Elle explique qu'elle ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de Hudka et s'est mise à composer ses propres chansons folk. Des chansons qui, comme beaucoup à l'époque, devaient aussi être lues entre les lignes.
Vlastně jsem v nich mluvila o pocitech, které jsem měla sama nebo jsem někde viděla okolo
sebe. En fait, dans mes chansons, j'exprimais les sentiments que m'inspiraient les choses que je voyais autour de moi, les événements autour de moi. Donc, je pouvais aussi inclure un sens caché à mes compositions. Je me disais que si ça avait l'air d'être populaire, personne ne pourrait venir me reprocher quoi que ce soit.
Tak to bude nenapadnutelné. Možná jsem to mohla říct jaksi rovnou, ale...
J'aurais pu dire les choses directement, mais j'avais un enfant à l'époque. Les femmes essayent toujours de protéger leur intimité, leurs proches. Même si elles sont capables de s'engager radicalement pour quelque chose, elles s'efforcent toujours de préserver leur entourage. En tout cas, moi, je l'ai ressenti ainsi. J'ai essayé de prendre la voie médiane, celle de dire des choses, mais en essayant de faire en sorte de pouvoir le dire le plus longtemps possible.
Abych mohla to říct a zároveň, abych to mohla říkat třeba déle.
Dès les années 1970, Dagmar Andrtová Voňková crée des chansons à texte, des chansons aux accents parfois païens, avec un rapport intense à la nature environnante. Une veine qui a fait floresse depuis avec la world music, mais qui à l'époque n'avait rien d'une évidence. Même ses expérimentations instrumentales sont novatrices. Guitariste, elle peut pincer les cordes de son instrument, comme utiliser un archer pour le faire résonner autrement, ou bien encore taper sur les cordes comme sur les touches d'un piano. Une technique popularisée à l'Ouest, à la même époque, par le le guitariste Van Halen ou encore Led Zeppelin. Aujourd'hui, quand on écoute et on voit Dagmar Andertova en concert, on s'étonne presque de l'actualité de son interprétation et de ses compositions où l'on retrouve quelques accents du courant freak folk de ces dernières années. Les chansons de Dagmar Andertova Vonkova, âgée de 60 ans, n'ont donc pas pris une ride.
Jedli zberán kamel a nevěděli ze živého uvnitř uviděl, kdo jsou a jací 12 apoštol.
Le poète Petr Hruška, né en 1964, originaire de la ville industrielle de Moravie du Nord, Ostrava, a le regard doux comme on peut l'imaginer quand on se représente un poète. Les cheveux longs en bataille aussi, grisonnants, la barbe tout aussi broussailleuse. Parce que ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, très simplement, sans fausse modestie, mais sans tapage non plus. Il est un des poètes les plus doués et les plus reconnus de sa génération. La poésie, il la crée, mais il est aussi de l'autre côté du miroir, puisqu'il enseigne la littérature tchèque et travaille à l'Institut pour la littérature tchèque de l'Académie des sciences. Alors certes, il est difficile de s'imaginer quelqu'un ne vivant que de poésie, mais j'ai quand même voulu savoir si cette double casquette de création et de réflexion théorique n'était pas parfois un peu schizophrénique pour lui.
Peut-être est-ce un peu schizophrénique, mais peut-être s'agit-il d'une bonne contradiction en moi. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Quand un poème, un vrai poème, peut envoyer paître une théorie de la littérature, aussi excellente et fine soit-elle, quand un poème la dépasse et la contredit. C'est beau que toute théorie soit insuffisante dès que naît un nouveau poème. En même temps, je trouve tout aussi beau que toute théorie littéraire qu'on a ainsi envoyée paître ne renonce pas, reste têtue et veut continuer à appréhender la poésie.
La région d'Ostrava est une ancienne région industrielle, encore très marquée par ce passé. Petr Hruška le dit lui-même, il y a un aspect brut, non poli, cru, qui imprègne les gens et les paysages et qui laisse des traces. Il explique que ce n'est pas forcément les réalités d'Ostrava directement qui l'inspirent, mais que la solitude existentielle, qui vivent parfois les habitants, marquée par la dureté de la vie, du chômage ou de l'alcool, sont quelque chose que l'on retrouve dans ses poèmes. Et pas seulement d'ailleurs. Formellement, Ostrava a encore une autre particularité.
Ostrava est un lieu où, pour des raisons comme la fatigue par exemple, on ne parlait pas. Parler longtemps et beaucoup, c'était quelque chose d'étrange. Là-bas, le dialecte local est très spécial. La prononciation des mots et l'intonation s'est écourtée. Les gens d'Ostrava hachent les mots, si l'on veut. Cette manière de prononcer de manière très courte les mots, cette économie des mots, cette parcimonie et ce manque de volonté de développer les choses a sans doute eu une influence sur ma poésie.
Rozletům se nějak snad také trochu dostala do těch básní.
Když stavěli páni bílou makovici, honili na panské ubohou vdovici, jednu nedělenku kastu pochovala, druhou nedělenku synka porodila.
Voilà, c'est la fin de Culture sans frontières consacrée aujourd'hui à Mittel Europa. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Radio Prague. Ahoy.